de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur.
Génie Gravel, oh, non, non!
Et si la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse?
That's amazing!
Et jouer la musique que vous aimez?
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
Avec des sujets d'affaires publiques, des dossiers human incontournables, il risque de te surprendre pas mal plus qu'avec ses jokes prévisibles.
Marceau le midi.
Ça fait peut-être pas la salle Albert Rousseau, mais maudit que ça s'écoute bien avec ton sandwich au croton.
13h05, bon midi, bon lundi. J'espère que vous passez une belle journée. C'est 15 degrés sur Québec, c'est très confortable. On s'en va vers le plus chaud dans les prochains jours, c'est la bonne nouvelle. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est 418-971-1021, 418-971-1021.
Combien quoi? Dans les prochains jours, le plus chaud, mettons, que tu vois là, pour cette semaine, ça peut changer, mais...
Après, on devrait pogner 17, 18 cette semaine. Là, tu vois, mercredi, je vois un 17 degrés, mais ce sera des averses. Ouais, 17, 18 là, dans ce secteur-là, à peu près.
OK, bon.
Ben oui.
Les averses, OK.
Match d'hockey hier. Les Stars qui l'ont emporté, qui ont remporté la série sur l'Avalanche du Colorado par la marque de 4-2. Les Jets, ça s'est terminé en prolongation, qui l'ont emporté 4-3 sur les Blues de Saint-Louis. Donc, c'est Winnipeg qui remporte cette série-là. Ce soir, match tant attendu entre les Panthers et les Maple Leafs. Ça va être une super de belle série. Donc, le match débute à 20h. Notre prochain invité, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut, Nick!
Bonjour, vous deux!
À ce temps qu'il n'y a plus de Canadiens, tu fais quoi, toi?
Ah, il travaille dans la boue dans le toupet.
Hein? Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de Canadiens?
Ben oui, parce que tu sais très bien que moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup le hockey. Là, mais non, pour être très honnête, j'écoute le Canadien de Montréal, ne serait-ce que quand il fait les séries, mais les séries étant terminées, mettons que je suis retourné à mes affaires habituelles. Donc, on suit la politique, on suit l'actualité, puis on s'occupe aussi avec toute autre chose dans notre temps libre aussi. Là.
Voilà. Puis là, y a une rumeur à Québec sur toi en passant?
Ah oui?
Oui, c'est une rumeur que j'ai entendue depuis quelques temps. On m'a dit qu'il y aurait des possibilités comme quoi, si tu viens à Québec, tu pourrais jouer au dodgeball avec Pascal.
Oui,
oui.
Bon. J'ai vu ça passer sur son Instagram, puis j'ai été super interpellé. Écoute, j'ai joué au dodgeball quand j'étais plus, on s'entend là, dans les cours d'école, au primaire puis au secondaire.
On appelait ça le ballon chasseur.
Mais parce que c'était du ballon chasseur. Il y a une petite différence avec le dodgeball.
Ah, oh, c'est laquelle? C'est,
six ballons sur le jeu, donc ça fuse de toutes parts. Mais ça s'arrange en 4 secondes, là, comprendre les règlements. Tu vas pas être désemparé, puis en plus, Yannick va jouer sûrement avec toi dans la même équipe, fait qu'il y a pas de problème, Nick.
T'es beau, là. J'ai pas le droit de choisir mes partenaires.
Ah, mais pauvre Nick, tu vas arriver avec une gang de prison, tu sais.
Ben un film qui peut nous préparer à ça, c'est-tu le fameux film Dodgeball?
Oui.
Du même nom, je pense que c'est pas mal les mêmes règles. Ou est-ce que si tu attrapes le ballon, puis l'autre lance de l'équipe adverse, ben l'autre est éliminé?
Absolument. C'est la même chose que le fameux film. Allez écouter ça. Okay.
C'est bon. Ben, je vais être préparé. Sinon, ça va faire plaisir de passer à Québec. Je sais pas c'est pour quel, c'est quoi la raison de l'initiative, mais ça va faire plaisir de l'encourager, puis on va avoir du fun.
C'est pour la Fondation Cerveau et le Kilimanjaro que je vais monter en septembre.
Faut encourager Pascal. Elle va monter le Kilimanjaro. Là, c'est pas rien. Elle s'entraîne. Elle est rendue avec un presque six-pack. Elle m'a monté ça la semaine passée. Elle voulait que je dise qu'il y avait un six-pack, mais on commence à avoir des petites lignes, là.
Il a dit « On voit rien, il travaille encore », mais je pense que c'est un encouragement.
C'est du tough love.
Je lance pas.
Hey Nick, avec la Fédération canadienne des contribuables, vous vous intéressez à la possible décote du Canada. Est-ce que Mark Carney a reçu le mémo, là, on dirait pas, avec les déficits qui ont été annoncés pour ce qui est des prochaines années? C'est encore pire que ce que Justin Trudeau annonçait.
Oui, Oui, ben j'espère que Carney a reçu le mémo, parce que le mémo est quand même arrivé le lendemain. Il faut le rappeler, les élections ont lieu le 28 avril, puis dès le 29, la fameuse agence de notation Fitch qui a envoyé un signal d'alarme en disant, écoutez, c'est félicitations, belle victoire électorale, mais il va falloir peut-être se plaquer sur les dépenses, surtout celles que vous prévoyez. Comme tu l'as dit, Yannick, Carney, dans son plan fiscal qu'il nous a présenté, il nous prépare plus de dépenses que ce que Trudeau lui-même nous préparait au cours des 4 prochaines années. Il nous annonce beaucoup plus de dettes. Et là, ben, c'est rendu que les agences de crédit commencent à s'intéresser à la situation du Canada. On a quand même encore une bonne cote de crédit, 3A, mais encore une fois, la cote de crédit, ça peut avoir un impact assez majeur pour toute la suite des choses. On l'a vu au Québec, on a été décoté il n'y a pas si longtemps par l'agence de crédit Standard & Poor's, qui est une première en 32 ans. Et c'est arrivé alors qu'on sait qu'on n'a pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, qu'on a des dépenses qui sont hors de contrôle, des déficits records qui s'accumulent, puis une fonction publique qui est hors de contrôle également. Ben c'est la même réalité à Ottawa. Et encore là, bon, non seulement les comptes financiers de Carney, tels que promis dans la campagne électorale, sont pas mal plus dépensés que celui de son prédécesseur, mais encore une fois, on a plus de dépenses, puis on n'a pas de plan pour ramener l'équilibre dans les finances publiques. Donc, éventuellement, il va falloir se poser la question quand est-ce que cette réalisation-là, ce réveil-là va avoir lieu? Parce que, comme on sait, pour le commun des mortels, les cotes de crédit pour les gouvernements, c'est un peu la même chose que pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, plus vous avez une cote de crédit qui est négative, plus les conditions d'emprunt ou les termes de remboursement de votre prêt, de votre dette, vont être plus élevés. Au Canada, ça nous coûte présentement 54 milliards de dollars payer les intérêts sur la dette fédérale. Donc, si jamais on est décoté, ne serait-ce qu'un peu, ben ça va nous coûter encore plus cher. Et qui paye pour ces frais d'intérêt-là? Ben c'est les contribuables comme vous et moi avec nos impôts et nos taxes. Donc, c'est une crainte qui est totalement justifiable et on va espérer que Carney reçoive le message. Parce qu'il n'y a pas juste Carney il n'y a pas juste Fitch qui a envoyé le message. Il y a aussi la banque CIBC qui a précisé que vu qu'on a un gouvernement minoritaire, il y a encore plus de chances qu'il y ait des concessions qui soient faites, entre autres, avec les partis de l'opposition qui sont assez dépensés, comme le NPD, pour justement faire passer plus de programmes qui vont augmenter les dépenses et donc les déficits. Donc, il y a déjà des signaux d'alarme à peu près partout, puis je tiens à rappeler que la Chambre des communes n'a toujours pas été ouverte depuis le début de l'année. Donc, on a pas mal hâte qu'ils se mettent au travail pour régler la situation si c'est possible à court moyen terme.
Oui, parce que les libéraux fédéraux, c'est un parti qui est un peu plus de centre-gauche et ils auront à négocier avec des partis qui sont pratiquement à l'extrême-gauche. Le NPD, c'est à l'extrême-gauche. Le Bloc québécois aussi, c'est à l'extrême... il n'est pas à l'extrême-gauche, mais il est à gauche. C'est vrai que ça fait encore plus peur quand tu le prends en ce sens-là.
Bien, surtout qu'on a vu ce que ça a donné au cours des 4 dernières années. Je veux dire, le Parti libéral a travaillé main dans la main avec le Parti néo-démocrate. Ça a donné place à plus de dépenses, plus de programmes aussi, comme par exemple le programme pour les soins dentaires ou les programmes pour les médicaments, ce genre de choses-là. Donc, il y a eu peut-être que certains ont été contents de la chose, mais au final, on remarque que ça a été pas mal plus dépensé à Ottawa à cause de cette union-là. Et là, ben le contexte est encore plus favorable à ce type de coalition-là qui va permettre au Parti libéral de passer pas mal sur son agenda, parce qu'il faut rappeler, ils ont 169 élus présentement. Il en faut 172 pour avoir le contrôle majoritaire. Et de l'autre côté, bien, vous avez 7 néo-démocrates qui n'ont plus de chef, qui n'ont plus de représentation officielle ou qui ne sont plus que reconnus comme un parti officiel à la Chambre des communes. Donc, leur volonté à faire des concessions, ne serait-ce que pour les 18-24 prochains mois, c'est assez élevé. Là. Il y a bien des chances que finalement, ils vont s'asseoir avec les libéraux puis leur donner à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors que quand c'était Jack Meeting, qui avait quand même une assez bonne délégation, disons, bien, il était capable de tirer un peu la couverte de leur côté. Donc là, je pense plus que le NPD va donner aux libéraux tout ce qu'ils veulent, mais à la fin, oui, si ça va de l'avant, comme c'était précisé, ne serait-ce que dans le fameux cadre financier de Mark Carney, ça va être pas mal dépensé au cours des prochaines années. Alors, on a eu des annonces. Autant il y a des baisses d'impôts qu'on espère qu'ils vont arriver, que des dépenses assez gigantesques, comme le fameux TGV entre Québec et Toronto, qui fait encore partie des projections. Donc, tout ce genre de choses-là, on se demande comment ça va se réaliser, surtout avec l'état des finances présentement.
On passe au prochain sujet, le fameux scandale Saclic. Il y a la commission Galant que tu suis pour la Fédération canadienne des contribuables. Y a-t-il des choses que tu as appris là-dedans qu'on ne connaissait pas?
Ben en fait, il y a quand même des éléments assez particuliers qu'on a appris jusqu'à maintenant parce que il y a eu quand même une sorte d'éclipse médiatique. La commission Galant, elle a commencé ses travaux le 28 avril, la même journée que le monde faisait la file pour aller voter. Donc, ça peut passer inaperçu. Ben, puis pour l'instant, on a pas mal un grand rappel et plutôt des grandes lignes, en fait, du fameux scandale. Ce qu'on a appris, entre autres, c'est qu'en 2015, quand on a commencé à mettre l'ébauche sur place de ce projet-là, donc Casa, ça clique, c'était supposé coûter 200 millions de dollars. Ça, c'était les projections qu'il y avait à l'époque. Donc, dites-vous qu'on est rendu pas mal loin avec maintenant des projections pour 1,1 milliard de dollars d'ici 2027. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est qu'il y avait non seulement beaucoup de problèmes de transparence, ça a été relevé par au moins trois enseignants, en fait, de l'École nationale d'administration publique qui ont été invités à témoigner et qui ont rappelé à quel point, finalement, la communication et surtout les interventions des ministres étaient vraiment à désirer. Là. C'est qu'il y a eu une faute qu'on reconnaît qui est assez grave, au sens où est-ce que les ministres, à plusieurs niveaux, que ce soit Geneviève Guilbeault ou Éric Kerr ou que ce soit François Bonnardel, auraient dû intervenir quand il y avait clairement là, des signaux d'alarme qui leur disaient « ouais, ben il y a des dépassements de coûts massifs ». Et donc, là, il y a vraiment ce reproche-là qui revient constamment. Et un élément que j'ai trouvé assez particulier, qui était un peu caché entre les lignes, c'est le fait que l'année dernière, la SAQ a quand même engagé pas loin de 1157 effectifs. Ils ont augmenté, en fait, l'ensemble de leurs employés réguliers. Le poids des employés réguliers a augmenté de pas loin de 30% en un an. Donc, c'est assez majeur. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on prend un paquet d'employés qui étaient, occasionnels ou à temps partiel. Ils ont tous mis permanents, en très grande partie, pour répondre à la crise qui a été provoquée par sa clique, puis pour faire les ajustements qui vont suivre. Donc, au final, non seulement on a réussi à déployer une plateforme qui était supposée alléger le fardeau bureaucratique, mais on a réussi à augmenter drastiquement le nombre d'effectifs comme ça se peut pas. Et on n'a pas vraiment de plan non plus pour réduire les effectifs. Et il faut dire qu'on a augmenté le nombre d'employés malgré le fait qu'il y avait un gel qui avait été décrété par le gouvernement du Québec au niveau de la fonction publique pour geler les embauches. Donc, on voit à quel point, on n'a pas fini de payer pour ça. Et plus ça avance, plus on va découvrir peut-être d'autres détails. Mais pour l'instant, on est encore dans les éléments de surface qu'on connaît. Puis on va peut-être avoir l'entièreté de l'histoire d'ici septembre prochain, en espérant que ça va donner des conséquences ou au moins des répercussions majeures au niveau du politique.
Ce qui est hallucinant, Nick, là, tu sais, toi, t'es pour la Fédération canadienne des contribuables, on est tous des contribuables, ceux qui écoutent la station, en fait, et on regarde ça tant au fédéral qu'au provincial, qu'au municipal, où on fait des déficits à n'en plus finir, il n'y a pas de plan pour le retour à l'équilibre. Il n'y a jamais de plan. Ils n'en ont pas. Ils regardent, là, l'argent sort partout, à UPIA, puis ils ne sont jamais capables de dire qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de cette histoire-là.
Quand c'était des priorités auparavant en politique.
C'est tant sur les trois paliers gouvernementaux que dans les organismes. Là. Ils n'ont pas de plan pour s'en sortir.
On dirait qu'ils ont déconnecté quand c'est venu à éclater de partout. C'est comme une personne qui est TDA, mettons, qui va essayer de commencer des tâches dans sa maison. Toutes les pièces sont en bordel, puis ils savent plus où aller.
Ils savent plus quoi faire.
Et ils vont juste sortir du stock.
Puis pour les plus vieux, vous avez tous entendu parler de Vincent Lacroix. Là. Il y avait eu une entrevue, je pense que c'était sur les ondes de TVA, puis la madame, Vincent Lacroix, c'est un fraudeur. Puis la madame demandait à Vincent Lacroix, « Est où l'argent? » Puis Vincent Lacroix disait, « Bien, l'argent est autour de vous, est autour de nous. » Mais c'est ce que le gouvernement t'a dit, là, tant au municipal, au provincial qu'au fédéral, c'est que l'argent est autour de nous, a disparu, est autour de nous. Puis tu regardes tous les trucs où on met notre argent, tout est en décrépitude. Puis ils n'ont pas de plan pour s'en sortir. C'est inquiétant pour un contribuable.
Là. Ben oui, c'est inquiétant parce qu'à la fin, on paye les conséquences de ça. Puis
tout le temps.
La conséquence ultime, c'est les fameux intérêts sur la dette qui ne font qu'augmenter au final parce que ben si on dépense constamment sans compter, on accumule des déficits, puis les déficits, ben c'est la dette qui augmente et ben cette dette-là, elle vient avec un coût. Ça nous coupe constamment d'une bonne marge de manœuvre. En ce moment, juste au Québec, ça nous coûte pas loin de 10 milliards de dollars en intérêts. Donc c'est pas loin de 1000 dollars par personne là, qui écoute. Là. Donc on paye tout environ 1000 dollars cette année en taxes et en impôts, pas pour avoir des meilleurs services, mais carrément juste pour payer des intérêts sur une dette. Puis ces intérêts-là vont monter à 12 milliards très bientôt. Donc, c'est quand même assez phénoménal tout l'argent qu'on gaspille à cause que le gouvernement, de son côté, lui a gaspillé trop au courant des années précédentes. Puis oui, c'est un point assez... c'est triste à dire, mais on est dans une drôle de passe présentement où est-ce qu'être optimiste en tant que contribuable par rapport à la capacité de nos gouvernements à faire le ménage, ben c'est un petit peu dur. Surtout qu'on voit qu'au fédéral, le plan plan pour le retour à l'équilibre budgétaire de Mark Carney, c'est de prendre le budget et de le diviser en deux. On va prendre un but, on va dire que certaines dépenses sont des dépenses opérationnelles et que d'autres dépenses sont des dépenses d'investissement parce que ça nous rapporte un retour sur intérêt, ne serait-ce qu'à court, moyen, long terme. Alors qu'au final, c'est une passe-passe comptable. Ça va pas du tout éliminer le déficit, ça va pas du tout régler quoi que ce soit. C'est juste jouer avec les chiffres et créer une deuxième colonne. Mais au provincial, ça, c'est encore plus farfelu parce qu'on n'arrête pas de dire justement, ça fait aucun sens l'état des infrastructures, l'état des services, alors qu'on a quand même un gouvernement qui peut se vanter avec raison d'avoir jamais mis autant d'argent en santé. Le budget en santé sous François Legault, ça a augmenté de 52% au cours des dernières années. Le budget en éducation, c'est 54%. La question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'on a réussi à augmenter autant, à mettre autant de milliards supplémentaires dans les principales missions de l'État, à avoir quand même des déficits, puis quand même avoir d'aussi mauvais services, des infrastructures en décrépitude. Donc, c'est aussi là qu'il faut se poser la question en tant que contribuable, comment ça se fait qu'on paye autant et qu'on a si peu en retour. Et ça, ben malheureusement, avec un gouvernement qui approche une année électorale, je m'attends pas à ce qu'il y ait bien de coups de barre qui se donnent ne serait-ce que les prochaines élections, ou plutôt le lendemain des prochaines élections.
Au sujet que je voulais aborder avec toi, j'en ai parlé un petit peu avec Denis et Pascal tantôt dans le Pit Stop, c'est un article de Marie-Christine Trottier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui parle des détenus. Les repas qu'on sert aux détenus dans les prisons du Québec, ça a augmenté deux fois plus vite que l'inflation depuis 10 ans. C'est 60% plus cher maintenant pour nourrir les détenus. Et on dit qu'un repas aujourd'hui, en 2025, pour un détenu, coûte 2,71 $, tandis qu'en 2014, il coûtait 1,69 $. Donc, pendant la même période, l'inflation au Québec a grimpé de 27%. Puis là, j'ai un ordre de prix ici. Nick, si tu t'en vas en prison, là, puis tu dis, bon, ben moi, j'ai toujours été catholique, mais ça donne qu'aujourd'hui, je suis un juif, ben ton repas, au lieu de coûter 2 $, va coûter 7,24 $. Parce que t'es
ah oui,
de confession.
C'est cachère.
Cachère, puis c'est pas fait à l'intérieur des murs d'une prison, parce que ce serait un scandale. Donc, on doit faire affaire avec un fournisseur extérieur. Fait qu'au lieu de coûter 2 $ au détenu, là, qui a fait des affaires épouvantables pour rentrer entre les barreaux, ben lui, il coûte 7,24 $ chaque repas. Et si t'es de confession musulmane, ben encore là, ça coûte plus cher ta nourriture. Donc, c'est 1,3 fois plus cher que les repas conventionnels.
C'est complètement aberrant, mais c'est quoi? On devrait même comparer ces chiffres-là que tu viens de me fournir avec le coût pour des repas pour les aînés dans les CHSLD, puis comment est-ce qu'on prend soin de nos aînés ou des gens dans les hôpitaux versus les gens dans les prisons au Québec. Puis j'aimerais voir si, sur la même période, on a augmenté ne serait-ce que les budgets en alimentation au même titre qu'on l'a fait pour les gens dans les prisons. Je dis pas que les gens que les prisonniers méritent pas d'un minimum d'humanité. Là. On va pas non plus les laisser manger de la merde dans un coin, là, c'est sûr et certain. Mais j'espère quand même que si on prend soin des prisonniers à ce point-là, ben qu'on en fasse autant pour les aînés. Puis c'est quoi, je suis persuadé que si on va comparer les chiffres entre les deux, on va être déçu de constater qu'on n'a peut-être pas nécessairement les priorités à la bonne place.
Moi, Nick, je suis pour la réinsertion sociale dans certains cas. À partir du moment où tu as touché un enfant ou une femme, tu n'en as plus de réinsertion sociale, tu resteras en prison jusqu'à la fin de tes jours. Mais ces gens-là devraient être capables de payer, de faire un travail, que ce soit dans les centres provinciaux ou fédéraux, devraient être capables de faire un travail qui ferait en sorte qu'ils paieraient leur loyer. J'en parlais avec Denis tantôt. Dans certains États aux États-Unis, tu les vois travailler dans les parcs, tu les vois travailler aux abords des autoroutes, faire du bien pour leur communauté. Puis une fois que le chiffre est fini puis qu'ils ont pris assez d'air à l'extérieur accompagné d'un garde, ben, ils embarquent dans l'autobus puis ils retournent au centre de détention. Mais au moins, ils ont travaillé toute la journée puis ils ont payé leur dû pour avoir leur chambre le soir.
Si j'ai un flash, parce que tantôt, il m'est pas venu, penses-tu qu'on accepterait ça, mettons, dans un parc d'avoir des criminels?
Ça serait peut-être plus complexe à certains endroits parce que là, il y a des syndicats qui diraient « Attends un peu, là, nous autres, là, on est à la Ville de Québec ou nous autres, on est pour le ministère des Transports puis c'est notre job de faire ci ou ça aux abords des autoroutes. » Mais là, à un moment donné, on peut-tu s'entendre pour dire que ces gens-là devraient faire leur part pour la société? On peut-tu le faire, tu sais? Ils pourraient réparer des jouets pour les enfants, ils pourraient faire un service de blanchisserie, oui, j'ai réussi, de blanchisserie Ils pourraient tout faire ça. Ils pourraient travailler en dedans. Il y en a qui réussissent à travailler en dedans, mais c'est pas assez pour payer leur loyer, malheureusement. Là. Mais bref, ils devraient contribuer un peu plus à notre société. Mais moi, c'est la bouffe, là. Puis je trouve que tu as un bon flash. Là. On devrait regarder comment ça nous coûte chaque personne âgée en CHSLD par repas. Puis si je suis une personne âgée de 80 ans, puis j'invente comme les détenus en dedans, « Ouais, mais t'as peu, là, moi, je suis juif. » 79 ans catholique, mais là, j'ai décidé de me convertir parce que c'est possible de se convertir. Maintenant, je suis rendu juif. J'ai-tu le même repas que les autres? Je pense pas. Ben, ça devrait pas.
Ça va augmenter la facture, mais effectivement, ça serait bien de savoir à quel point est-ce que cette logique-là s'applique en comparant entre nos aînés qui ont contribué toute leur vie puis qui reçoivent des miettes en retour de leur système, que ce soit parce qu'ils attendent tellement longtemps à l'urgence ou qu'ils attendent pour avoir un médecin de famille, des personnes qui ont contribué toute leur vie, qu'on leur donne des repas qui ont une valeur inférieure, ne serait-ce que soit nutritive ou en termes de valeur monétaire par rapport à ce qu'on sert à des gens comme en prison, qui même s'il y en a plusieurs là-dedans qui peuvent très bien être réhabilités et continuer à contribuer à la société à long terme. Il n'en reste que c'est pas normal que ceux qui ont contribué toute leur vie, qui sont restés du bon côté de la loi, ces personnes-là soient laissées pour compte à la fin. Donc, ouais, ce serait bien de comparer les prix puis d'envoyer peut-être un petit message au ministère là, des aînés pour leur rappeler c'est quoi leurs obligations à ce niveau-là.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, à bientôt.
Pour en savoir plus sur la fédération, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable.ca. 13h25, on revient.
Marceau le midi.
Vous savez, les produits miracles qu'on essaye de vous vendre sont pas tant miracles.
J'avais, pour le petit cours 101, j'avais commencé la pilule contraceptive parce que ça aide pour l'acné quand t'es adolescente. Et donc, quand j'ai arrêté ça il y a quelques